9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes chez Drouhan, merveilleuse et mythique brasserie. On est entre le Louvre et l'Opéra le 12 novembre 1984. Si je vous dis novembre Drouhan, vous voyez à peu près de quoi il va être question. Il y a beaucoup de journalistes, de photographes, des flashs qui crépitent pour essayer de capter la scène. Et voilà que le secrétaire général de l'Académie Goncourt, François Nourricier, là déjà qui s'avance et qui va annoncer le prix Goncourt 1984. L'année précédente, il avait été décerné ce prix Goncourt à Frédéric Tristan pour Les Égarés, mais en cette année 84, les lecteurs n'ont qu'un nom à la bouche, et le nom en question, c'est celui de Marguerite Duras. On le savait, on s'y attendait, on l'attendait. Elle a publié quelques mois auparavant « L'Amant », où elle fait le récit de son enfance à Saïgon, de sa rencontre avec le fils d'un riche commerçant chinois qui avait 10 ans de plus, et avec qui elle a eu sa première histoire d'amour, ce qui nous plonge évidemment dans le climat très particulier de l'Indochine des années 30. « L'histoire de ma vie n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais de centre, pas de chemin, pas de ligne. » On peut lire ça dans L'Amant. Et pourtant, si on veut saisir l'essence de la création littéraire de Marguerite Duras, il est indispensable d'aller se pencher sur ce noyau mystérieux d'où émergent toutes les inspirations, c'est-à-dire dans ce récit familial en Indochine. L'Amant va être un succès extraordinaire, hein. 1,5 million d'exemplaires vendus en quelques mois, ce qui en fait un des livres les plus vendus de l'histoire du prix Goncourt. Marguerite Duras n'en est d'ailleurs pas à son premier succès, puisque elle a 74 ans quand même, au moment où paraît L'Amant. Elle a été non seulement femme de lettres, mais depuis longtemps cinéaste, dramaturge, bien sûr, et j'aurai l'occasion d'en dire un mot, journaliste. Elle est reconnue comme une des grandes plumes de cette fin de siècle, et 2 ans plus tard, devant les micros, elle disait, avec cette espèce de ton décalé qui la caractérisait, elle disait « Le prix Goncourt crevait si je n'étais pas venu, si je n'avais pas été là. Ils l'ont donné parce qu'ils étaient forcés de le faire. » Et c'est vrai qu'elle avait acquis une telle notoriété que le président de l'Académie Goncourt, Hervé Bazin, concédait quelques jours avant ce qu'on doit pouvoir qualifier de sacre de Marguerite Duras, qu'elle semblait plus proche du Nobel que du Goncourt.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Elle était née en 1914, Marguerite Duras, dans le sud de cette immense, gigantesque Indochine française de l'époque, dans Cochinchine, donc à Diadine, pas très loin de Saïgon. Ça fait partie donc de cet empire où beaucoup de fonctionnaires français œuvre à essayer de maintenir quelque chose. Il y a parmi eux le couple Donadieu, des cadres de l'enseignement, Henri et Marie Donadieu. Et quand Marguerite voit le jour, son père est directeur de l'école normale de Diadine, qui forme un certain nombre des enseignants qui vont ensuite aller se répandre dans toute l'Indochine française. C'est un établissement qui forme les instituteurs, disons-le. Et sa mère a été sous-directrice de l'école municipale de Saïgon. Elle est elle-même le 3e enfant du couple. Le frère aîné s'appelle Pierre, le voyou, comme a dit. Le cadet Paul, le doux. Alors Paul, c'est son préféré, hein. C'est avec lui qu'elle explore cette végétation luxuriante qui entoure la maison, cette jungle. Et malgré ce qu'on pourrait imaginer, la vie n'est pas facile sous ces cieux tropicaux. Les Donadieu subissent de nombreuses mutations, certaines ont été demandées à l'administration, d'autres ont été imposées. Ça les conduit à aller s'installer tour à tour donc à Diadine, Hanoï, Phnom Penh, Vinh Long, Sadek. Sadek, où dont on aura l'occasion de reparler, bien sûr. Et parfois, en cours de route, au gré des mutations, eh bien, il leur arrive de perdre quelques grades. Il y a des échelons de temps en temps qu'il faut reconquérir. Par ailleurs, le climat tropical ne convient pas au père de Marguerite, qui est souvent malade, qui bientôt va devoir retourner en France pour aller se soigner. Il alterne le repos, les cures dans des stations thermales. Il n'aura plus la force de rentrer au Vietnam et il mourra en décembre 21, à l'âge de 50 ans seulement, sur les terres qu'il avait achetées 2 mois auparavant dans la commune commune de Pardaillan, dans son Lot et Garonne natale. Pas très loin d'un village dont le nom vous dira quelque chose, le village de Duras. À ce moment-là, Marguerite, qui s'appelle toujours Marguerite Donadieu, a 7 ans, et l'absence de son père va la marquer, bien sûr. Ça pourra devenir, disons-le, un motif, pour ne pas dire un leitmotiv de son œuvre. En 1928, elle a l'âge d'entrer au lycée, la voilà donc partie pour Saïgon. Elle va faire ses études au lycée Chasseloup-Lauba. Elle rentre à la fin de chaque semaine dans sa famille, sur le bac qui traverse le Mékong, pour revenir en ville, eh bien Marguerite va faire la rencontre de cet homme qui inspirera le personnage de l'amant. Février 31, la petite famille embarque sur un paquebot pour regagner la France où on s'installe en banlieue parisienne, à Vanves, après un bref retour en Indochine un an plus tard pour terminer son baccalauréat. Son bachot, on disait à l'époque, Marguerite va rembarquer à l'automne 33 pour la France afin de s'inscrire en fac de droit. Elle ne le sait pas, mais à ce moment-là, quand elle quitte l'Indochine, c'est pour la dernière fois, ce sont des adieux qui ne disent même pas leur nom. Arrangement pour piano de la musique du film de Jean-Jacques Hanau, L'Amant, par Gabriel Yared, et c'est Alexandre Tarot qui était au piano, accompagné par l'orchestre de l'Académie nationale Saint-Cécile de Rome, sous la direction d'Antonio Papano.
Vous écoutez Radio Classique.
À 18 ans, j'ai vieilli. Je ne sais pas si c'est tout le monde, je n'ai jamais demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette poussée du temps qui vous frappe quelquefois alors qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. Je l'ai vu gagner mes traits, un à un, changer le rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus grands, le regard plus triste, la bouche plus définitive, marquer le front de cassures profondes. Au contraire d'en être effrayé, j'ai vu s'opérer ce vieillissement de mon visage avec l'intérêt que j'aurais pris, par exemple, au déroulement d'une lecture. Je savais aussi que je ne me trompais pas, qu'un jour, il se ralentirait et qu'il reprendrait son cours normal, un extrait de L'Amant. En 1936, Marguerite fait la rencontre de Robert Antelme, qui est étudiant en droit, et elle va se marier avec lui 3 ans plus tard. En 1937, elle est engagée par le ministère des colonies comme auxiliaire au comité intercolonial pour l'information et la documentation. C'est là qu'elle va signer avec Philippe Roch une commande de propagande du ministre des colonies, c'est Georges Mandel à l'époque bien sûr, sur l'Empire français. Un livre qui a vocation à rappeler aux Français de l'époque, on est juste à la veille de la Seconde Guerre mondiale bien sûr, tout le potentiel de cet empire. Et on sait à quel point Georges Mandel pensait que l'Empire aurait pu tout changer dans la guerre. Ça, c'est une autre histoire. Dans un article publié dans l'Illustration et qui résume ce livre, Marguerite dira que, je cite, « Notre conception impériale est la négation même du racisme. La France a donné à tous ses sujets d'outre-mer, sans faire de distinction entre les races, les mêmes possibilités de développement et les mêmes espoirs. » Plus tard, elle désavouera complètement ce livre qu'elle avait d'ailleurs signé sous le nom de Marguerite Donadieu. Au début de la guerre, elle préside un comité de lecteurs chargé d'autoriser ou non l'attribution aux éditeurs agréés par Vichy d'un quota de papier, parce qu'à l'époque on rationne le papier. Donc, elle a été plus ou moins embringuée dans cette vaste administration de Vichy. Et pendant ce temps, elle travaille aux Impudents, elle travaille à son premier roman. Ce n'est pas une période heureuse, hein, évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous le dire. Elle a perdu son premier enfant, mort-né, son frère Paul, qui a été terrassé par la maladie à Saïgon, il avait 31 ans. On dit que Robert Antelme a fait le tour des éditeurs à la suite des menaces de suicide de sa femme, parce qu'elle n'arrivait pas à publier. Et c'est Plon qui va finir par éditer le roman, qui sort en avril 1943. Le livre est centré sur la famille et la propriété d'un père absent, situé dans la campagne française du Lot-et-Garonne, et on ne peut pas dire que ça ait un très grand retentissement. Dans les débats en avril 1943, Blanchot dit que quand l'auteur aura affermi son style, qui parfois bronche et où la phrase parfois semble se distraire d'elle-même, elle aura mis au point son incontestable talent. Oui, bon. En tout cas, cet incontestable talent, il va s'imposer brillamment un peu plus tard. Son deuxième roman, c'est La vie tranquille, on est là en décembre 44, toujours dans le sud-ouest de la France, hein, comme si elle voulait en quelque sorte s'éloigner de son enfance indochinoise. Elle mène une vie intellectuelle à l'époque, Marguerite, avec son mari. Il n'y avait jamais à ouvrir la séance parce qu'elle n'était jamais levée. L'ordre du jour était de mettre l'ordre dans les jours de l'histoire, pas moins, dira Claude Roy, qui vient souvent participer aux réunions du couple rue Saint-Benoît. Marguerite Duras rencontre également Dionis Mascolo, qui est un résistant du mouvement national des prisonniers déportés, qui va devenir son amant. Avec Robert Antelme, elle rejoint elle aussi ce mouvement dirigé par un certain François Mitterrand. Voilà l'origine de cette amitié-là. Le réseau fabrique des faux papiers pour les prisonniers de guerre évadés. Le 1er juin 44, Robert et sa sœur Marie-Louise, qui est résistante, elle aussi, ils sont arrêtés tous les deux par la Gestapo, déportés en Allemagne, et Marguerite est complètement ravagée. Elle va militer au sein du mouvement jusqu'à la fin de la guerre. Elle sera inscrite au Parti communiste à l'automne 44. Elle ne retrouvera son mari quand il rentre de Dachau qu'en 1945. Elle raconte ça dans La douleur, recueil de 6 récits de nouvelles qui paraîtra beaucoup plus tard, en 1985. Robert Antelme, de son côté, fera paraître en 1947 « L'espèce humaine », c'est son seul livre dédié à sa sœur Marie-Louise, qui, elle, est morte en déportation. Et voilà, 1950, l'apparition d'Un barrage contre le Pacifique, passionnant ouvrage où l'on voit la mère de Marguerite Duras aux prises avec l'absurde, si je puis dire. À ce moment-là, la France est en pleine guerre d'Indochine, contre cette toute nouvelle République du Vietnam qu'a proclamée Ho Chi Minh dès 1945. Elle condamne maintenant le grand vampirisme colonial. Vous voyez qu'il y a eu du chemin de parcouru depuis 1939. Elle est totalement contre cette guerre d'Indochine, et dans son récit, qui montre comment les colons français au quotidien pouvaient travailler en Indochine, elle replonge évidemment dans les souvenirs de son enfance, et c'est un grand succès. Et le livre est tout près du Goncourt d'ailleurs. Et cette même année 50, elle va signer aux côtés de Frédéric Joliot-Curie, de Louis Aragon, de Chagall, de Picasso, j'ai eu l'occasion de parler de ça, et de Montand, de Signoret bien sûr, le fameux appel de Stockholm, pétition contre l'arme nucléaire lancée par le Mouvement pour la paix, qui en fait était une émanation du Parti communiste, évidemment, mais je vous l'ai dit, Marguerite Duras est là, dans cette mouvance, à l'époque. Il est lié à Moscou, l'appel en question. Bref, elle sera d'ailleurs exclue cette même année du Parti communiste pour des raisons un peu obscures, ce qui ne l'empêchera pas de rester à l'avant-garde des grandes causes. En 60, elle signe, ai-je besoin de le dire, le manifeste des 121, qui avait été lancé par le groupe de la rue Saint-Benoît, justement. Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Voilà ce que c'est que ce manifeste des 121. En 68 à 54 ans, elle se joint aux étudiants de mai 68. Bien sûr, 3 ans plus tard, elle signe le manifeste des 343, rédigé par Simone de Beauvoir pour la légalisation de l'IVG. Texte qui ouvrira la voie à ce qui, un petit peu plus tard, va être la loi Veil. Vous voyez à quel point il y a dans la vie de cet auteur, qui par ailleurs ne cesse de produire, d'écrire et d'éditer, il y a un véritable engagement politique. « C'est Carlos D'Alessio qui a signé la bande originale d'India Song.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Elle est au moins autant happée par le cinéma que par la littérature, Marguerite Duras. En 58, René Clément a adapté pour le cinéma son barrage contre le Pacifique. Et la même année, elle écrit, elle, le scénario d'Hiroshima, mon amour, avec Alain Resnais, bien sûr. Retentissement dont on doit pouvoir dire qu'il est mondial. C'est Jean-Luc Godard qui dira « Je me souviens d'avoir été très jaloux de Hiroshima, mon amour. Je me disais, ça c'est bien et ça nous a échappé. On n'a pas de contrôle là-dessus. » Et pour Claude Chabrol, « Hiroshima, mon amour est le plus beau film qu'il ait vu depuis 500 ans. » Bon, ça c'était les envolées de Claude Chabrol. Elle va continuer, bien sûr, dans le cinéma. Elle va solliciter Benoît Jacquot, qui est assistant metteur en scène, passionné par l'œuvre de Marguerite Duras, pour devenir son assistant sur le tournage de Nathalie Granger. Là, on est en 72, avec Gérard Depardieu. La femme du Gange, en 74. India Song, dont vous entendiez la bande originale avec Michael Lonsdale. Et Nathalie Granger est tournée dans la maison de l'auteur à Naufle-le-Château. Pour ce qui est de La femme du Gange, c'est tourné sur les plages de Trouville. India Song dans le palais Rothschild à Boulogne. Elle dira « C'est pas la peine d'aller à Calcutta, à Melbourne ou à Vancouver. Tout est dans les Yvelines, à Naufle. Tout est partout. Tout est à Trouville. Dans Paris aussi, j'ai envie de tourner. L'Asie à s'y méprendre, je sais où elle est, à Paris. »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Elle vit donc à Naufle avec son compagnon depuis la fin des années 50, qui est écrivain, Gérard Jarlot. Il mourra en 1966 et elle trouvera à ce moment-là refuge dans l'alcool, disons-le. Elle dira à ce propos, la solitude, ça veut dire aussi ou la mort ou le livre, mais avant tout, ça veut dire l'alcool. Et encore plus tard, on boit parce que Dieu n'existe pas, écrit-elle. Elle rencontrera en 78 Yann Lemay, qui a 38 ans de moins qu'elle, et avec lequel elle va vivre jusqu'à la fin de sa vie. Il partagera avec elle son triomphe quand en 84, donc, elle reçoit le prix Goncourt pour L'Amant. Alors, il y a des moments moins glorieux aussi, notamment le reportage qu'elle réalise en 85 pour Libération sur l'affaire du petit Grégory, où elle s'attire les foudres et les critiques, et pas forcément pour de mauvaises raisons. En 93, elle revient à l'écriture avec son testament littéraire qui s'appelle « Écrire » et dans le préambule de ce recueil, elle annonce son projet « J'ai parlé de l'écriture, je voulais tenter de parler de ça, écrire ». Et elle poursuit « L'écrit, ça arrive comme le vent, c'est nu, c'est de l'encre, c'est l'écrit, et ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie ». Quand on lui demande quelles sont ses inspirations, elle dit « Oh Michelet, Michelet et encore Michelet jusqu'aux larmes et Saint-Just, Stendhal et l'Ancien Testament ». Le dimanche 3 mars 96 à 8h, après 30 romans, 12 recueils, une trentaine de pièces de théâtre, finalement je n'ai même pas eu le temps de vous en parler, même si c'est par là que j'ai connu moi Marguerite Duras, et pas mal de films bien sûr, elle va mourir dans son appartement de la rue Saint-Benoît. Elle a 81 ans à ce moment-là, Marguerite Duras, et elle est considérée à l'époque comme l'incarnation même des lettres françaises. Voilà ce qu'elle avait dit un petit peu avant de mourir. C'était en 1985 et elle parlait de l'an 2000. Et elle disait qu'il fallait lire et continuer de lire. Je la cite. « Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information, dans une information constante. C'est pas loin du cauchemar. » Il n'y aura plus personne pour lire. Oh, ils verront la télévision, on aura des postes partout. Il restera la mer quand même, les océans et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Un jour, un homme lira et puis tout recommencera.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Gaspard Le Marinier d'avoir fait revivre Marguerite Duras. Bonjour Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck Ferrand. Alors entre Jean-Marie Rouard et son barbe
oui,
orientale,
que j'ai croisé en bas.
Voilà, au Théâtre Montparnasse jusqu'au 28 avril, et votre numéro d'historien du mois d'avril qui évoquera les 70 ans de Dien Bien Phu.
Eh oui, bien sûr.
On va voir, on a eu cette aventure de Marguerite Duras qui nous a emmenée là-bas, mais elle disait qu'on retrouvait quand même quelques endroits de l'Orient et de l'Asie en France.
Alors, dans ce nouveau numéro d'Historia, puisque ça y est, il est en kiosque, là, depuis hier matin, nous parlons aussi de ce combat extraordinaire des femmes entre 1789 et 1944, parce que on célèbre, figurez-vous, là, ce mois-ci, on va célébrer le 80e anniversaire du vote des femmes. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr.
On en parlera la semaine prochaine. La couverture arbore une très jolie photo d'une femme mettant son bulletin dans une urne en bois, à l'époque. Et il y a un très bel article sur l'impressionnisme que vous signez d'ailleurs, la première exposition en 1874. Je voudrais dire un tout petit mot ce matin de quelqu'un que vous avez bien connu, Frédéric Mitterrand, qui est parti, qui avait une grande qualité pour moi, que vous partagerez probablement, c'est qu'il avait un très bon usage de la langue française, ce qui se perd quelque peu.
Et puis il avait cette chose que j'ai toujours enviée chez certains, c'est l'extraordinaire à propos. Sur n'importe quel sujet, il était capable de vous sortir non seulement la bonne citation, la bonne référence, mais souvent l'idée ou la phrase qui faisait mouche et qui faisait rire. Il ne faut pas oublier qu'on riait pas mal.
Il avait beaucoup d'humour, beaucoup de dérision, de distance, puis une certaine élégance au quotidien. Je l'avais croisé après qu'il a été nommé par le président Sarkozy ministre de la Culture. Il venait de quitter la Villa Médicis et je lui ai posé la question. Oui. Je lui ai dit, est-ce que tu ne regrettes pas un peu? Il a fait, je découvre les arcanes de la politique.
Il y avait autre chose de fascinant avec Frédéric Mitterrand, on pourrait en parler toute la matinée bien sûr, mais c'était son ouverture d'esprit.
Tout à fait.
Dans l'époque où nous vivons, évidemment, c'est en train de disparaître ça. Il était capable de s'intéresser à peu près tous les sujets, et lorsqu'il recevait un livre qui par exemple défendait, et là je parle de ce qui me concerne, en matière historique, une thèse un peu nouvelle, dissidente, qu'on appellerait aujourd'hui complotiste, il commençait par la lire et par regarder ce qu'on en disait avant d'en parler.
Oui, pour avoir le bénéfice quand même de quelque chose de positif.
Exactement.
Et alors, il avait déclaré, sur le micro d'une autre radio, qu'après sa mort, qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous? Il avait dit, j'aimerais qu'on dise que c'était un homme sympa. Mais Frédéric, tu étais un homme sympa. Voilà, petite pensée pour lui, mais oui. De notre part.
Et puis on peut donner un conseil à nos auditeurs, c'est de revoir ce qui pour moi est un chef-d'œuvre. Et là, je pèse mes mots, ça s'appelle « Les aigles foudroyés ». 6 épisodes extraordinaires sur la vie des familles royales à la Belle Époque.
Exactement, avec cette voix tellement caractéristique. Bonne journée Franck, cet après-midi vous allez... Alors, on parlait de la culture, Malraux. Malraux à 14h avec Franck Ferrand, et puis on se retrouvera bien sûr dès lundi, avec grand bonheur, en vous souhaitant bien sûr un bon week-end.
Pardon bon week-end à vous.
Cette longueur, mais c'était bien d'évoquer Frédéric.